Grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que vous vous êtes trompé? Le jour de la Pentecôte, en écoutant le discours de Pierre et des autres apôtres, des milliers de personnes se rendirent compte à quel point elles s'étaient écartées de la vérité. Elles comprirent que les autorités religieuses de leur époque leur avaient inculqué un enseignement teinté de tradition et de superstition, comme c'est encore le cas de nos jours. L'apôtre Pierre leur disait « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Ces personnes comprirent alors qu'elles avaient besoin de Dieu et de son pardon. Le baptême est un symbole de repentance qui doit être accompli au nom de Jésus-Christ. Le baptême est donc effectué au nom de Jésus-Christ, conformément à ses instructions, sous son autorité et par un de ses représentants. Ainsi, nous découvrons que le baptême par immersion totale des croyants se faisait au nom du Seigneur Jésus ou au nom du Seigneur. Les apôtres connaissaient que, bien que Jésus eût quitté cette terre pour s'asseoir à la droite de son Père, il restait le Seigneur, et il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La Bible du chanoine Crampon traduit cette phrase comme suit « Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la masse ceux qui étaient sauvés. » Et le commentaire au bas de la page indique qu'il s'agit de ceux qui se trouvaient sur le chemin du salut. Le Christ avait donné aux apôtres l'autorité de prendre des décisions qui seraient liées dans le ciel. Et celle-ci comprenait la décision de baptiser ou de refuser le baptême. Comme Jean-Baptiste le fit avant eux, les apôtres devaient s'assurer que les candidats produisaient du fruit digne de la repentance. Dans la négative, le baptême leur était refusé. Dieu tient pour responsable des décisions qu'ils prennent tous ses véritables représentants qui agissent sous son nom, par son autorité. Les véritables ministres de Dieu ne sont pas obligés de baptiser celui ou celle qui en forme le souhait. Jean-Baptiste ne se reconnaissait pas une telle obligation, tout comme l'apôtre Pierre invalida le baptême de Simon le magicien en constatant sa mauvaise attitude. Après le baptême, la vie du chrétien ne lui appartient plus. L'apôtre Paul a écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La personne baptisée a exprimé son désir et sa volonté de ne plus rester serviteur du péché, mais de Dieu. Elle a pris la décision de faire la volonté de Dieu. Paul ajoute, « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Après le baptême, le chrétien devient un enfant engendré de Dieu, destiné à naître de nouveau dans la famille divine lors de la résurrection. Il a le droit de s'adresser à Dieu en l'appelant Père, puisqu'il a été engendré par lui. Tous les êtres humains ont un passé de criminel. Je sais que chaque auditeur n'a pas un casier judiciaire et pourtant, nous sommes tous coupables d'avoir transgressé les lois et les commandements. Voilà pourquoi l'homme est coupé de Dieu. Il doit donc être réconcilié avec Dieu. Le prophète Ésaïe a écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, votre injustice, vos iniquités, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le pécheur s'est coupé de Dieu. Que veut dire cette expression? L'apôtre Paul répond, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Paul ajoute, « Car le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, après repentance et baptême, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre a déclaré, « Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. » Le mot « pardon » est traduit du grec « aphésis », dont le sens est également « délié »,« annulé », »,« oublié ». Il s'agit d'une séparation complète des fautes passées. Voilà pourquoi le roi David a écrit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il s'agit bien d'une mise à l'écart, d'une séparation complète. Le pardon des péchés est un acte par lequel Dieu efface les transgressions de celui ou de celle qui se repent sincèrement, de celui ou de celle qui décide de lui obéir en se soumettant à sa volonté, en mettant en pratique ses lois, ses commandements. N'oubliez pas que tous nous avons péché. Les péchés, l'injustice, coupent l'être humain de son Créateur, mais l'apôtre Paul a écrit « Christ est mort pour nous ». Nous sommes justifiés par son sang. Les péchés du pécheur repentant sont ainsi transférés sur Jésus, qui est mort pour nous, à notre place, pour nous libérer de notre amende. Toutefois, nous devons entrer dans la tombe liquide pour ensevelir le vieil homme pécheur. C'est à ce moment que le sang du Christ nous justifie. La peine de mort est éliminée. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême, la justification par le sang du Christ et le pardon des péchés sont liés. » Comment la mort du Christ peut-elle acquitter de l'amende de leurs péchés tous ceux qui se repentent? Jésus-Christ est le Dieu, le Créateur de l'humanité. Il s'est dépouillé de sa divinité afin de pouvoir mourir pour tous. Par conséquent, sa vie vaut beaucoup plus que celle de tous les êtres humains réunis. Dieu souhaite voir le pécheur revenir sincèrement à lui. Il souhaite effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui nous condamnait, ce sont nos transgressions, nos péchés. Le roi David a écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ». Rappelez-vous les paroles du discours de l'apôtre Pierre. « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». La repentance, le baptême, le pardon des péchés ont un but commun, recevoir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Comme le Christ le confirme à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est par cette puissance, cette force, que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est aussi par elle qu'il engendre ses enfants. L'homme a été créé avec un corps physique, ressemblant au corps de Dieu, et avec un esprit humain, ressemblant à l'esprit de Dieu, un peu comme notre ombre ressemble à notre corps. Mais cette ressemblance n'est qu'un début. Tout homme doit croître spirituellement pour devenir, comme l'apôtre Paul le décrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment y parvenir? En vivant selon le mode de vie décrit par la loi divine. Voyons ce que Dieu avait déclaré à son peuple. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Tout ce que le peuple devait faire était d'observer la loi. Moïse prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Malheureusement, Israël et Juda se détournèrent de la loi de Dieu et ils finirent par être déportés. Pourquoi ce peuple physique fut-il incapable de mettre en pratique la loi divine et de respecter ainsi l'alliance conclue? Paul répond, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ce n'est pas la loi qui était fautive, pas plus que Dieu. » C'est le peuple qui était responsable de l'échec de cette alliance. Car c'est avec l'expression d'un blâme ou d'un reproche que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Comment Dieu peut-il mettre ses lois dans notre esprit et dans notre cœur? De la même manière qu'il peut devenir notre Père, et que l'on peut devenir un de ses enfants engendrés, par son Esprit Saint. Voilà pourquoi la Nouvelle Alliance recèle une meilleure promesse. En effet, qu'est-ce que l'homme sans l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul écrit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Dans le verset précédent, Paul déclare « Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, autrement dit semblable à celle de l'homme, et cela afin que la justice de la loi, l'observance de la loi, fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, avec des pensées charnelles, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, avec des pensées spirituelles, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, elle mène à la mort éternelle, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En conclusion, l'Esprit de Dieu donne à l'homme converti la puissance, la force d'obéir à la loi divine. Cette force émane de Dieu. Elle fait de l'homme un véritable chrétien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ajoute « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas disciple de Christ. » Paul a prêché une sagesse qui est le grand plan divin, consistant à faire des humains repentants des êtres divins, membres de la famille divine. Voilà la sagesse mystérieuse et cachée. Paul, en s'adressant aux saints qui sont à Corinthe, ajoute « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Bien souvent, la plupart de ceux qui citent ce passage ne vont pas plus loin. Mais lisons la suite. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Il met dans notre cœur l'amour de Dieu, ainsi que toutes les autres qualités du fruit de l'Esprit. C'est encore le Saint-Esprit qui rendra la vie à notre cœur mortel au moment de la résurrection, et qui le transformera de corps physique corruptible en corps spirituel incorruptible, le revêtant d'immortalité. Beaucoup de personnes ont été baptisées sans avoir connu la repentance. Elles ont été abusées par un enseignement fallacieux et ont continué à vivre dans le péché, transgressant la loi divine qu'on leur a dit être abolie. Contrairement à ce qu'elles pensent, elles n'ont jamais reçu le Saint-Esprit que Dieu ne donne qu'à ceux qui lui obéissent. Et pourtant, la véritable repentance est nécessaire pour atteindre le but. Pensez-y.